Chapitre 14, le dernier rugissement, la récompense des chalots. Voici ce qui s'était passé. Similor avait reçu en effet entre les deux yeux une sévère taloche, mais il en avait vu bien d'autres en sa vie, et après le premier étourdissement, il aurait pu se relever puisque la clémence imprudente des chalots lui en laissait le loisir. Mais ce n'est pas sans raison que nous avons prononcé tant de fois dans ce récit le mot « sauvage ». Rien ne ressemble si bien aux héros de Cooper que nos Mohicans de la savane parisienne. Même ruse, même adresse, même convoitise, même férocité. Là-bas, chez les rouges combattants de la forêt, la vaillance la plus intrépide n'exclut jamais l'astuce, et souvenez-vous que parmi les deux demi-dieux chantés par le vieil Homère, il y en avait au moins un qui était diplomate. Sans établir aucune analogie entre Échalot et le bouillant Achille, nous retrouvons dans Similor quelques-unes des qualités qui distinguaient le sage Ulysse. Seulement, Similor n'eut point résisté au chant de la sirène. Il n'y avait dans sa chute aucune feinte, le coup de poing d'Échalot l'avait jeté bas irrésistiblement. La feinte était dans la durée de son étourdissement prolongé à plaisir. Il ne s'agissait point pour lui d'un tournoi, d'un assaut où la gloriole seule est le prix du vainqueur. La pensée des billets de banque mettait le feu à son sang et dominait son être tout entier. Il était fanfaron comme tous ses pareils et se regardait comme bien plus fort qu'Échalot. Mais la question n'était pas là. Il y a du hasard dans toute bataille. Similor ne voulait ni bataille ni hasard. Pendant qu'il jouait la comédie de l'homme foudroyé, son esprit avait travaillé. Au moment où Échalot tournait le dos pour gagner son armoire, Similor s'était relevé vivement et avait marché sur la pointe des pieds jusqu'à la muraille. Une fois là, et se sentant protégé par l'ombre, il avait rampé comme un lézard, sans produire aucun bruit, vers l'endroit où nous le vîmes naguère donner des leçons de danse aux deux rougeaudes. Cet endroit était situé tout près de l'armoire des chalots, et pour y arriver, Similor dut côtoyer presque toute une moitié des clôtures de la cabane. Échalot, du reste, lui avait fait la place libre en revenant vers la table. Juste à l'instant où le pauvre Échalot s'apercevait de l'absence de Similor, celui-ci refoulait dans sa poitrine un cri de joie en arrivant à son but. Son but, c'était un misérable trophée, composé des accessoires, comme on dit au théâtre, qui lui servaient quand il travaillait en public. Il y avait là deux fleurets, deux cannes, deux sabres et deux gants fourrés suspendus aux planches. Ce n'étaient pas de bonnes armes, mais toute arme est bonne contre un bras désarmé. Le bruit de ferraille avait averti Échalot. Le malheureux avait deviné que Similor décrochait un des sabres. « Moi, je les aurais décrochés tous les deux, pensa-t-il, et je lui aurais donné à choisir. » Il ajouta avec amertume, « Mais je ne suis qu'un imbécile et Amédée est un homme de talent. » Amédée se sentait si bien le maître que toute son insolence était revenue. Il prit le temps de dépouiller son paletot en guenilles et de passer la redingote toute neuve d'Échalot qu'il avait sous la main. Ainsi vêtu, la tête haute et le sourire aux lèvres, il arriva en disant « Je vais y ajouter le gilet et la culotte si tu n'obéis pas incontinent à mes ordres. »« Tu peux me tuer, » répliqua Échalot qui n'essaya point de fuir et croisa ses bras sur sa poitrine. « La faiblesse que j'ai eue pour ma redingote est une faute et j'en suis puni. Mais quant à te livrer ce qui est à la patronne, reste ça de tes papiers. » Avance et viens percer le cœur de ton frère, qui a été en même temps la mère de ton enfant. » On dit que le ridicule tue l'émotion. Ce n'est pas toujours vrai, car il y avait dans le calme de ce pauvre diable une véritable grandeur. Et Similor, le coquin sans âme, s'irritait contre la défaillance qui lui faisait trembler la main. Il avançait toujours pourtant, car la fièvre de sa convoitise était de beaucoup la plus forte, et la pensée du tas d'or représenté par les billets de banque lui montait au cerveau comme un transport. « Une fois, deux fois, dit-il, ça m'agace l'idée de te tuer. Tu étais une bonne bête de somme, mais ne me laisse pas dire trois fois où je pique. » Quelque chose qui ressemblait à de la beauté vint à l'intrépide visage d'Échalot, tandis que le nom de Léocadie montait de son cœur à ses lèvres. « Trois fois !» dit Similor en levant le bras. Le sabre brandi jeta des étincelles. Mais Similor, au lieu de frapper, recula parce qu'un bruit sinistre, profond, immense, ébranla les planches de la baraque. Ce bruit ne fut suivi d'aucun autre. C'était le dernier rugissement du grand vieux lion qui s'éveillait de son étourdissement pour mourir. On put le voir un instant dressé sur ses pattes de derrière comme un ours et plus haut qu'un géant, et puis il retomba, rendant un soupir énorme, et au choc de son vaste cadavre, la terre trembla. Tout cela fut rapide comme la pensée, et pourtant, quand Similor leva son arme de nouveau, les choses avaient complètement changé de face. En mourant, le lion avait arraché la victoire aux griffes du chacal. Échalot, en effet, à la voix du lion, avait fait lui aussi un pas en arrière, et son talon avait heurté contre le fragment de balancier dont Similor s'était servi tout à l'heure. Il n'eut qu'à se baisser pour avoir en main une arme terrible contre laquelle le mauvais sabre de Similor n'était plus qu'une défense dérisoire. Celui-ci mesura la situation nouvelle d'un coup d'œil et devint tout blême. Échalot lui dit tranquillement « Amédée, tu peux t'en aller, si tu veux, je continuerai de servir de père à l'enfant, et si j'entends dire que tu as faim, la moitié du pain que j'aurai sera pour toi. » Similor courba la tête et fit un pas vers la porte. Mais c'était une feinte encore. Il se retourna tout à coup, croyant qu'Échalot n'était plus sur ses gardes, et bondissant comme un tigre, il lui planta son sabre en pleine poitrine. Le coup était asséné terriblement et aurait mis fin d'une fois à l'histoire, mais Échalot était sur ses gardes et Similor avait compté sans le balancier qui fit voler le sabre en éclats. « Assassin !» balbutia pour la seconde fois Similor, dont la langue bredouillait comme celle d'un homme ivre. « Ceci n'est point une erreur de l'écrivain, ni une faute de l'imprimeur. » Similor dit « assassin » au moment même où il tentait un assassinat. Et il ajouta, car vis-à-vis du pauvre diable qui avait été si longtemps son esclave, il avait la perfidie effrontée de certaines femmes envers certains maris, plus trompés encore que battus. « Lâche, vas-tu m'assommer maintenant que je suis sans armes ?» Il tenait à la main d'un air piteux le tronçon de son sabre. Échalot, qui déjà brandissait sa massue, s'arrêta. C'était un véritable preux que ce mouton, fort et vaillant comme un taureau, un preux panaché d'ange. « Jette ton morceau de fer blanc, dit-il, et terminons ça, rien dans les mains, rien dans les poches. » Aussitôt, Similor, réprimant un sourire de triomphe, lança au loin la poignée de son sabre. Échalot abandonna sa massue, et tous deux, sans parler cette fois, se ruèrent l'un sur l'autre avec tant de violence que le choc de leur poitrine sonna bruyamment. Tous les mauvais instincts de Similor étaient surexcités jusqu'à la rage, et le sang d'Échalot lui-même avait fini par bouillir. Ce fut une terrible lutte. À les voir enlacés corps à corps, tantôt debout, tantôt à genoux, tantôt roulant comme un seul paquet dans la poussière, et semblables à de serpents qui câblent leurs anneaux, un profane aurait cru qu'ils avaient mis de côté toutes les ressources de l'escrime populaire pour s'attaquer comme les loups affamés se mangent. Il n'en était rien. Le nageur qui tombe à l'eau fait les mouvements voulus, d'instinct et sans savoir. Sans savoir et d'instinct, il se battait avec une redoutable adresse. Il y avait, jusque dans la bestialité de leur accolade, la science de la lutte, la maîtrise du pugilat. Seulement Échalot restait loyal dans le paroxysme de sa colère, tandis que Similor, au plus furieux de son enragé démence, essayait de tricher et de trahir. Il n'y avait pas de témoin pour voir ce combat hideux, mais curieux, qui se prolongeait en silence. On n'entendait que les respirations de plus en plus oppressantes et qui sifflaient comme des râles. De temps en temps, un coup retentissait, mais pas souvent, car leurs mains étaient étroitement engagées. Échalot était le plus fort, et un moment où il tenait Similor sous lui, il poussa un cri étranglé. « Ne mords pas, Amédée, dit-il, ou je t'écrase !»« Assassin !» gronda celui-ci, qui parvint à rejeter sa tête de côté. Il avait la bouche rouge et humide comme un chien qui vient de faire curer. À l'endroit où l'épaule s'attache au cou, la chemise d'Échalot montrait une large tache écarlate. Il ressaisit la tête de Similor, qui se laissa faire, mais qui dégagea sa main droite tout doucement pour se plonger dans la poche de son pantalon. « Rends-toi, » dit Échalot, « ça me monte au cerveau et je vois rouge. » « Ça cingre, » grinça Similor. Sa main ressortit de sa poche avec un couteau qu'il parvint à ouvrir. « Rends-toi, Amédée, » dit pour la seconde fois Échalot. La main de Similor qui tenait le couteau lui tâtait le dos pour chercher l'envers du cœur. Ces gens-là connaissent mieux que les chirurgiens la place précise où il faut frapper pour être sûr de tuer. Il trouva la place et, tout en écartant la main pour poignarder du plus haut, il dit encore « Assassin !» Mais la lutte avait désormais un témoin, quoique ni l'un ni l'autre des deux combattants n'eût entendu la porte s'ouvrir. Le poignet de Similor fut arrêté par une main solide comme un étau de fer, et une bonne grosse voix s'éleva qui dit sans trop d'émotion « Hé, l'enflé, ce n'est pas du jeu !» En même temps, Échalot fut écarté par une irrésistible poussée. « Maman Léo !» dirent-ils tous les deux en même temps. Échalot se releva, mais non point Similor qui avait le talon de la dompteuse sur la gorge. « Alors, » dit celle-ci en s'adressant à Échalot, « tu as eu l'argent de mes papiers chez le changeur ?»« Oui, patronne, l'argent est là, » répondit le bon garçon en mettant la main sur sa poitrine. « Il n'y a pas besoin d'être une somnambule et devineresse, » reprit la veuve, « pour calculer ce qui s'est passé. » Le gredin ici présent avait l'idée de faire la noce avec ma caisse d'épargne. « Ayez pitié de lui, patronne, » supplia Échalot, « c'est le père de mon petit. » Et Similor était comme foudroyé et ne trouvait pas une parole. La robuste main de la dompteuse lui tordit le poignet et le couteau tomba. Échalot n'avait pas encore vu le couteau. Il murmura « Il m'appelait assassin ?» Ce fut tout. « C'était pour toi, Eustache, » dit la dompteuse, « mais sois tranquille, je n'ai pas idée d'endommager la bête. Mes occupations ne me permettent pas de perdre mon temps avec une pareille racaille. Regarde voir s'il ne t'a rien volé. » Échalot déboutonna son gilet, le paquet était intact. Maman Léo lâcha le poignet de Similor et le prit par la nuque, de sorte que, sa tête seule étant soulevée, ses pieds restaient à terre. Elle le traîna ainsi, sans qu'il fît résistance, jusqu'à la porte principale, qu'elle l'ouvrit. Échalot voulut implorer encore, elle lui ordonna rudement de se taire et sortit sur la galerie, d'où elle jeta Similor en bas du perron comme un chien mort. Après quoi elle rentra et referma la porte tranquillement. « Ça m'a fait du bien, cette histoire-là, » dit-elle en regagnant la table. « J'étais énervé. Quoi, ni plus ni moins qu'une marquise qui a sa migraine. Toi, tu voudrais bien aller voir s'il s'est fait une bonne bosse au front en tombant, pas vrai ? Reste là. J'aime bien qu'un homme ait bon cœur, mais les imbéciles, ça me dégoûte. » « Personne, » voulut dire Échalot, « la paix. Il y a encore de l'eau de vie dans la bouteille qui est là-bas derrière les cordes. Va me la chercher avec deux verres. C'est certain que si je n'étais pas rentré, tu allais te laisser larder par ce polisson-là et que mon argent serait maintenant à tous les diables. » Échalot courba la tête et s'en alla en murmurant « C'est vrai qu'ayant sur moi du bien qui ne m'appartenait pas, j'aurais dû montrer plus de férocité. Mais la prochaine fois, gare à lui. » Maman Léo se laissa tomber dans son fauteuil de paille et mit ses deux coudes sur la table. En revenant avec la bouteille et les deux verres, Échalot la trouva, la tête entre ses mains, et plongée dans de profondes réflexions. « Est-ce qu'il est arrivé malheur, patronne ? » demanda-t-il timidement. « Verse à boire, » répliqua la veuve, qui ne bougea pas. Échalot emplit un des verres. « Dans l'autre aussi, » dit maman Léo. « Je ne connais pas beaucoup d'âmes meilleures que la tienne, et tu peux maintenant trinquer avec moi, puisque je t'ai distingué par mon amitié. »« Ah, patronne !» fit Échalot, étourdi par un si grand bonheur. « Tais-toi, je te dis que je suis énervé. » Elle but une gorgée d'eau-de-vie et replaça son verre sur la table brusquement. « Qu'est-ce que ça aurait fait s'il avait volé mon argent ? » reprit-elle en regardant Échalot en face. « À quoi mon argent peut-il me servir ? Tu ne comprends pas, toi, n'est-ce pas ? Ni moi non plus, je ne comprends pas. Et quand je suis dans les rébus et charades, ça ne va pas. Je ne sais plus s'il faut aller à droite ou à gauche. Je ne sais plus rien, rien de rien. La petite n'en sait pas plus long que moi, la marquise n'en sait pas plus long que la petite, monsieur Germain jette sa langue au chien, les autres, ah, les autres savent, ils ne savent que trop, et j'ai peur. Échalot l'écoutait, bouche béante. « Bois, dit-elle, tu es tout pâle. C'est l'effet du malheur d'Amédée, les passions, le tyrannisme, il n'a pas mauvais cœur. À votre santé, patronne. » « J'ai peur, répéta maman Léo, dont la physionomie accusait un désordre d'esprit extraordinaire. Je croyais que ça m'avait calmé, la chose de cette laide bête, mais non, j'ai la fièvre. « Si vous me disiez, commença Échalot. « Tais-toi ! Le colonel a l'air d'un mort, et s'il y a des morts qui ne sont pas si blêmes que lui, il ne se tient plus, sa peau est collée à ses os. Je suis bien sûr qu'il n'a pas une chopine de sang dans ses veines. Je parie qu'il ne passera pas la journée de demain. Tu me diras, tant mieux, c'est un scélérat. En es-tu sûr ? Il y a des moments, moi, où je le prendrai pour un brave homme, car enfin, c'est lui qui l'a voulu. Nous serons tous de la noce. » « Quelle noce, patronne ? » demanda Échalot, que l'inquiétude prenait, car il y avait de l'égarement dans les yeux de maman Léo. « Tais-toi, fit-elle encore, je te dis que le colonel nous a invités au mariage. Et je te réponds bien qu'on ne s'embarquera pas là-dedans sans biscuit. Nous serons tous armés, sacudier, j'en vaux un autre. Mon Maurice aura une bonne paire de pistolets dans sa poche pour prendre part à la conversation, si on cause, comme j'en ai peur. » Sa main tourmentait ses cheveux, dont la racine était baignée de sueur. « Quoique, reprit-elle, je ne sais rien de rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour savoir, mais il faudrait plus fin que moi, à ce qu'il paraît. Le marchef était déguisé en commissionnaire, il a causé avec la petite plus d'une grande heure dans le salon où est le portrait du juge. Nous attendions, monsieur Germain et moi, et nous nous regardions comme deux événements. On a froid dans cette maison-là, ça sent le deuil à plein nez. Quand le marchef a repassé pour s'en aller, il m'a fait un signe d'amitié. On n'est pas maîtresse de ça, j'ai eu la chair de poule. Fleurette était plus pâle encore qu'à l'ordinaire, mais ses grands yeux brillaient. Elle ne m'a rien dit le long du chemin en revenant, pas seulement un mot. Ah, c'est maintenant qu'elle a l'air d'une pauvre folle. Ce n'est pas ma faute que je l'interrogeais, non, mais je parlais à une pierre. Pourtant, quand la voiture s'est arrêtée devant la maison de la santé, à la porte où il y a des maçons, j'ai cru l'entendre qui soupirait comme ça tout bas. C'est un coup de dé. Il y avait sur la bonne grosse figure de maman Léo une expression de véritable angoisse. Elle releva les yeux sur Échalot, qui faisait, pour la comprendre, des efforts surhumains. « Qu'en dis-tu, toi ? » demanda-t-elle brusquement. Échalot ferma les poings avec désespoir. Il était aussi rouge que la dompteuse, tant sa pauvre tête travaillait. « Je dis, répliqua-t-il, que je voudrais bien avoir la capacité d'Amédée. Il paraît que je suis bouché à fond. Ça me fait l'effet comme si j'écoutais du latin de bas-breton. » « Tu le connais pourtant bien, ce jeu-là, » murmura la veuve, dont le regard était fixé et sombre. « Un sou d'un côté, un sou de l'autre, et pile ou face. Mais au lieu d'un sou, c'est la mort qui est ici, du côté où l'on perd. Mais veux-tu mon idée ? Père ou non, c'est trop peu dire. Il y a 100 à parier contre un, et 1000 aussi, pour le côté où est la mort. » Maman Léo parlait avec fièvre, et comme il arrive dans le trouble mental où elle était, elle parlait pour elle-même, bien plus que pour le bon garçon qui l'écoutait de toutes ses oreilles, dévorant chaque mot et se cassant la tête à y chercher un sens. Maman Léo ne se rendait pas compte de ce fait qu'elle sous-entendait nombre d'événements dont Échalot n'avait pas connaissance. Elle était si pleine de son sujet qu'il lui semblait impossible de n'être pas comprise. Nous serons bien forcés de dire au lecteur brièvement que, dans sa préoccupation, maman Léo jugeait inutile d'expliquer. Elle revenait de la maison de santé du docteur Samuel, où elle l'avait reconduit Valentine. Là, elle l'avait revue encore une fois à cette étrange parodie de la famille, les habits noirs entourant le lit de la prétendue folle. Valentine était rentrée à la brune sous son costume d'emprunt, sans éveiller aucun soupçon apparent. Nul ne s'était aperçu de sa longue absence, excepté Victoire, la femme de chambre, qui était nécessairement complice. C'était comme dans les contes de fées où les princesses ont des anneaux qui les rendent invisibles. Maman Léo ne péchait pas par excès de confiance ni de prudence. Elle appartenait à un monde où l'on entre volontiers dans le merveilleux, mais ceci dépassait tellement les bornes du vraisemblable que Maman Léo se refusait à y croire. Au salon, tout en rendant compte de sa mission, elle ne put retenir une parole trahissant le doute qui la tourmentait. Elle se vit aussitôt entourée de sourires bienveillants et approbateurs. On échangea des regards d'intelligence et le colonel secoua sa tête blêmie en murmurant « Madame Samaillou n'est pas de celle qu'on peut tromper. » Monsieur de Saint-Louis ajouta « Si Dieu mettait sur mon front la couronne de mes pères, sans écarter systématiquement la noblesse et la bourgeoisie, je m'entourerais de gens du peuple. » Le colonel eut sa toux qui faisait mal. Il avait terriblement baissé depuis la veille. Quand il ouvrait la bouche, on était obligé de faire un grand silence pour saisir les mots qui venaient littéralement expirer sur ses lèvres. Mais il avait gardé toute la sérénité de son regard. Ne vous inquiétez pas, bonne dame, dit-il, en adressant à la veuve un geste d'amicale protection. Nous ne jouerons pas à cache-cache avec vous. J'ai bien de l'âge et ce lourd à porter. La coquetterie que j'aurais, ce serait d'atteindre mes 100 ans, et j'y touche. Pour prix d'une si longue vie, bien modeste à la vérité et bien paisible, mais qui n'est pas sans contenir quelques bonnes actions dont le souvenir embellit mes vieux jours. J'ai l'expérience, j'ai aussi la confiance de mes amis. Venez ça, chère madame, car il me fatigue d'élever la voix. Madame Léo s'approcha et le colonel poursuivit avec une bonté croissante. Ce que nous voulions tous, c'est le salut de ce jeune homme, Maurice Pagès, puisqu'à son existence est attachée celle de Valentine, notre chère enfant. Il fallait la convertir à nos projets de fuite. Je connais si bien le cœur humain. Nous aurions eu beau supplier notre bien-aimée fillette, elle se serait entêtée dans son refus, tandis que la pensée d'une escapade, d'une petite révolte, traversant cette pauvre chère cervelle ébranlée, a suffi pour la rendre complice de nos efforts. Nous avons eu seulement à fermer les yeux. Elle s'est cachée de nous pour obtenir votre concours, et elle a travaillé pour nous, c'est-à-dire pour elle. Maman Léo respirait comme si on l'eût soulagée du poids qui écrasait sa poitrine. Ceci était manifestement la vérité, car tous les regards attendris confirmaient le dire du colonel, et la marquise elle-même murmura en essuyant une larme. Le bon ami a de l'esprit plein le cœur. Désormais, Maman Léo était aux trois quarts trompée. Il ne faut pas que le lecteur s'irrite contre la simplicité de cette vaillante femme qui était en ce moment l'unique champion d'une cause presque perdue. Les plus habiles auraient fait comme elle, et peut-être moins bien qu'elle, car le jeu de l'homme qui tenait le rôle principal dans cette comédie atteignait à la perfection. D'autres n'auraient pas gardé le doute qui tourmentait encore la conscience de Madame Léo. La famille quitta le salon pour rentrer dans la chambre de Valentine. Le cercle de Madame la marquise d'Ornans s'établit, selon la coutume, autour du foyer, et le colonel alla s'asseoir tout seul auprès du lit. Pendant que Valentine et lui s'entretenaient tous les deux à voix basse, la marquise se chargea d'annoncer officiellement à Maman Léo que le grand jour était fixé au lendemain. Mieux que personne, chère madame, lui dit-elle, vous savez que la santé de notre Valentine ne sera pas un obstacle. Son expédition d'aujourd'hui, qui nous remplit de joie, en est la preuve. Voici une heure à peine, j'étais aussi ignorante que vous, et votre surprise ne pourra dépasser la mienne. Tout est prêt. Le providentiel dévouement de notre ami, le colonel Bozzo, avait pris ses mesures d'avance. Rien ne lui a coûté, et Dieu savait ce qu'il faisait quand il a mis une grande fortune à la disposition de cet admirable cœur. Ce ne sera pas une évasion comme les autres, il n'y aura aucun danger, aucune violence. L'argent, répandu à pleine main, a su aplanir toutes les difficultés. Seulement, nous avons encore besoin de vous, et monsieur de la Perrière va vous expliquer ce que nous attendons de votre affection pour le jeune Maurice Pagès. Monsieur de la Perrière prit alors la parole. C'était un homme disert et sachant exprimer toutes les nuances du langage. Il fit comprendre à la veuve que toutes les personnes présentes étaient assises sur un degré de l'échelle sociale qui n'admettait point certaines relations et qu'elle seule, Madame Samaillou, était bien placée pour choisir la cheville ouvrière de toute l'opération, c'est-à-dire l'homme qui, pour un prix fait, consentirait à remplacer Maurice dans sa prison. Nous verrons tout à l'heure le détail de cette partie de l'entreprise qui était, comme tout le reste, admirablement combinée. En un mot comme en mille, s'écria Monsieur de Saint-Louis, quand le baron eut achevé, dès qu'il s'agit d'arriver à l'action, dès qu'on cherche un point laborieux, utile et brave d'une entreprise quelconque, il faut toujours s'adresser au peuple. Maman Léo n'avait pas encore eu le temps de répondre lorsque le colonel Bozzo, qui était auprès du lit de Valentine, se leva. « Ah, voilà donc qui est entendu, ma mignonne chérie, dit-il. Nous en avons fini avec nos petites ruses et nous marchons désormais d'accord. Il faut cela, croyez-le bien. Si nous tardions d'un jour à jouer notre va-tout, je ne répondrai plus de la partie. Viens me donner le bras, Francesca. Je vais céder ma place à cette bonne Madame Samaillou pour que notre Valentine lui donne ses dernières instructions. » Tout dépend d'elle d'eux. Je n'y mets point de solennité intempestive. Je dis les choses comme elles sont. La vie du lieutenant Maurice Paget est désormais entre leurs mains. Il s'éloigna, presque porté par la comtesse Corona, à laquelle vint s'adjoindre Monsieur de la Perrière. Samuel glissa à l'oreille de Monsieur de Saint-Louis. « Je déchire mon diplôme si cet homme n'est pas à bout, tout à fait au bout. Il n'y a plus d'huile dans la lampe. Chacune des minutes qu'il vit encore est un miracle du diable. » Maman Léo s'assit dans le fauteuil que venait de quitter le colonel au chevet du lit de Valentine. « Que faut-il faire ? » demanda-t-elle. « Il faut trouver l'homme, » répondit Valentine. « As-tu confiance ? » demanda encore la veuve. La jeune fille frissonna entre ses draps. « Je ne sais pas, murmura-t-elle, je n'aurais jamais cru qu'il fût possible de tant souffrir sans mourir. » Il y eut un silence. La veuve était retombée tout au fond de cette erreur. Valentine reprit. « Il faut trouver l'homme. Choisis bien, tu es notre vraie mère, et je trouve tout simple que tu meures avec nous. » Maman Léo prit sa main qui pendait hors du lit et l'appuya contre ses lèvres. « C'est vrai, murmura-t-elle, je suis ta mère, j'ai prié Dieu qui m'a exaucée, ma tendresse pour toi est la même que ma tendresse pour lui, mais je t'en prie, parle-moi, explique-moi. » Valentine eut un sourire navré. « Demain, dit-elle, j'attendrai dans la voiture à la porte de la prison, et puis nous ne nous quitterons plus tous les trois. Voilà tout ce que je sais, le reste est dans la main de Dieu. » « Va-t'en, trouve l'homme, et à demain. » C'était en sortant de cette entrevue que Maman Léo était rentrée dans la baraque. L'homme était trouvé, car la dompteuse avait songé à échalot tout de suite. Elle arrivait avec le trouble poignant que les dernières paroles de Valentine avaient fait naître en elle. Elle ne s'occupait point de la question de savoir si Échalot accepterait. Elle était tout entière au travail impossible de sa pensée qui cherchait une lueur au milieu de cette profonde nuit. Elle n'avait pas même l'idée de fournir une explication quelconque, car elle allait son chemin, fuyant le trouble de ses souvenirs et s'accrochant à toute espérance qui essayait de naître. « Oui, oui, » reprit-elle, sans remarquer le désarroi croissant du pauvre garçon qui l'écoutait. « Pour armer, il sera armé, j'en réponds, et si l'on se tape, sacre Dieu, j'en veux deux ou trois pour ma part. « Si l'on se tape, » répéta Échalot, « j'en serai, pas vrai, patronne ?»« Non, tu n'en seras pas, » répondit la veuve, « tu auras autre chose à faire, mais laisse-moi finir. » Elle n'a pas voulu de mon argent, et quoique je te remercie tout de même, ce chiffon-là ne me serviront de rien. Ça ne m'aurait pas étonné, car elle en a plus que moi à présent de l'argent, mais on n'a pas voulu du sien non plus, et cependant ça a dû coûter bien cher pour marchander tant de monde. Monsieur de la Perrière m'a détaillé tout cela, on les a achetés tous, à moitié sentant. Tu vas voir, depuis le concierge jusqu'aux porte-clés, en passant par ceux qu'on pourrait rencontrer par hasard dans les corridors. Ah, c'est mené grandement, ça n'a pas liardé, mais voilà ce qui te regarde. Il faut un homme qui n'est jamais allé devant la justice, car un repris risquerait trop gros, et des hommes pareils, on n'en trouverait pas à l'estaminet de l'épicier. Te souviens-tu que tu m'avais dit une fois, j'irai dans le cachot du lieutenant Pagès, et pendant qu'il s'échappera, je resterai à sa place ? Oui, je m'en souviens, répondit Échalot. Nous aurions ri, reprit la veuve, moi la première, quoique j'avais envie de pleurer. Nous avions bien ri, car tu ne lui ressembles guère, dis donc. Eh bien, on avait tort de rire, l'enflé, car c'est comme ça que ça se jouera. Vrai, madame Léocadie, s'écria Échalot, je serais assez chanceux pour vous témoigner mes sentiments au milieu des périls. Non, répondit la veuve, c'est justement ce qu'on va t'expliquer. Tu ne courras aucun danger, puisque tu n'es recherché, comme ils disent, en justice, pour aucun autre crime ou délit. Échalot contenait du mieux qu'il pouvait la tendre exaltation qui montait à son cerveau. Ah, fit-il avec une chaleur très comique et très éloquente. Ah, ne me parlez pas comme ça, patronne, si vous voulez m'exciter dans mon tempérament. C'est le danger qui m'attire. Quand il est question de vous être agréable, je gris de braver la mort pour vous. Les souveraines ont une façon particulière d'aimer. Sans comparer Échalot au regrettable prince Albert, qui fut si longtemps le bonheur de notre alliée et voisine, la reine Victoria, nous pouvons affirmer du moins que ce bon garçon avait quelques-unes des qualités nécessaires à un prince époux. Maman Léo le regarda avec bonté. « J'entreaperçois l'état critique de ton cœur, bonhomme, dit-elle, et je ne m'en trouve pas offensé de ce que tu as eu, l'audace d'un pareil amour. Ne tremble pas comme un jocrisme. C'est un petit bout de conversation particulière que je mélange instantanément ici à notre grande affaire. Bois un coup pour que la joie ne te flanque pas une indisposition au moment d'avoir besoin de toute ta bonne santé. » Elle remplit elle-même, avec une gracieuse condescendance, le verre d'Échalot, dont toute la personne était à peindre. Ses pauvres joues avaient pâli, sous le coup de l'indescriptible émotion qui l'écrasait. Ses jambes tremblaient, ses yeux remplis de larmes exprimaient le doute enfantin de ceux à qui on annonce trop brusquement un bonheur impossible. Maman Léo trinqua et reprit « Il ne faut pas pousser trop loin la modestie, qui est plutôt l'apanage particulier de mon sexe. J'ai distingué ton talent dans la mécanique destinée aux deux frères siamois factices et dans les poils de vache pour la perruque de feu Monsieur Daniel. D'un autre côté, tu as gagné qu'on t'applique le prix Montyon pour ta conduite désintéressée envers le jeune Saladin. Ça m'a disposé en ta faveur. » N'ayant pas eu la chance, en tuant mon premier, sans préméditation, je m'étais confiné dans le veuvage dont la liberté ne me gênait pas, mais on n'a plus 25 ans, pas vrai, et c'est fini de rire avec les exercices gymnastiques pouvant occasionner des accidents funestes après le plaisir. » Elle donna ici un soupir à la mémoire de Jean-Paul Samaillou et continua. C'est sûr que ton extérieur m'aurait arrêté à l'âge de faire Florès dans la société. Mais actuellement, je m'en bats l'œil, étant déterminé à mener une existence tranquille, soit en province, soit à l'étranger, si on réchappe à la chose de demain. Vous disiez qu'il n'y avait pas de péril, voulut interrompre Échalot. En prison, répondit la veuve, mais ailleurs. Alors je ne vais pas aller en prison, s'écria Échalot. « Tu ne veux pas ?» Échalot plia les genoux. « Ah, la bonne heure, fit la veuve. Je disais donc que je veux me payer un intérieur légitime avec un mari obéissant et des enfants qu'il élèvera plus tard soigneusement par son caractère casanier dans la baraque. » Elle but. Ce tableau évoqué du bonheur conjugal avait mis le comble au transport d'Échalot. Ses mains étaient jointes dévotement, et personne n'aurait pu garder son sérieux en voyant l'auréole que l'extase dessinait autour de son front. « En foi de quoi je te permets d'y prétendre, » acheva maman Léo en reposant son verre vide sur la table, « et de me fréquenter consécutivement pour le bon motif. » Mais au moment où Échalot, retrouvant enfin la parole, voulut entonner le cantique des cantiques, elle l'interrompit brusquement. « Bon, c'est bon, l'enflé, dit-elle, tu me chanteras ça une autre fois. Tape dans ma main, la chose est dite. Reparlons d'affaires. C'est donc convenu que tu y vas de ta liberté, momentanément, pour évader Maurice. »
C'est convenu, patronne, et il ne manque qu'une chose à ma félicité, c'est de ne pas y risquer mes jours.
Sois calme et comprends bien ton rôle. Il y a dans tout ça, et tu dois bien le savoir, des tas de manivelles que je ne comprends pas, mais celle-là du moins est claire et nette. C'est fondé sur la connaissance qu'on a de la fidélité des domestiques du gouvernement. Les habits noirs sont fins comme des singes, et ils connaissent toutes ces farces-là sur le bout des doigts. Quand je t'ai dit qu'ils avaient acheté à moitié les employés de la prison, ça signifie qu'il y a deux, trois, quatre, peut-être une demi-douzaine de ces braves-là qui ont consenti à risquer leur place pour une jolie petite position de rentier. Mais ils n'ont voulu risquer que cela, et il a fallu s'arranger de manière à les laisser, quand la besogne sera faite, dans la situation où j'étais après le désagrément de feu Jean-Paul Samaillou. Saisis-tu ?
« Je crois bien, s'écria Échalot, le contentement me débouche, et je crois que je vais avoir de l'esprit maintenant. Il faut que tout cela puisse dire comme vous, patronne, c'est un malheur, mais il n'y a pas de notre faute. »
« Juste, fit la dompteuse, et ce sera drôle tout à fait. Il n'y a pas de fenêtre à escalader, ni de muraille à percer, ni de geôlier à étouffer. Il n'y aura qu'à entrer, avec le permis de Monsieur Perrin Champin, le fin finot, qui n'aura pas vu cette fois plus loin que le bout de son nez pointu. Personne ne nous aidera, c'est vrai, mais personne ne nous gênera, pas même le porte-clés qui fera les 100 pas dans le corridor et qui gagnera 1 millier d'écus de rente, rien qu'à ne pas regarder par le trou de la serrure pendant que tu prendras les habits du lieutenant et qu'il endossera ta toilette toute neuve.
« 60 000 francs, murmura Échalot, rien que pour ça. »
« Eh, fit la veuve, c'est au plus juste prix, et d'autres gagneront la même somme pour moins d'ouvrage encore. Il leur suffira de ne pas dire, en te voyant repasser dans les couloirs, « Tiens, tiens, comme le cavalier de Madame Veuve Samaillou a maigri et grandi dans l'espace de 10 minutes. »
Échalot se mit à rire bonnement.
« Quelqu'un, dit-il, fera sa fortune en ne relevant pas mon chapeau que j'aurai sur les yeux, un autre en ne rabaissant pas les collets de ma lévite. À présent que je ne suis plus jaloux du lieutenant, si vous saviez comme ça me fait plaisir de penser qu'il s'échappera entre mes doublures. »
La veuve riait aussi et disait « Avec de l'argent, c'est certain, on pourrait arriver comme ça jusque dans la chambre à coucher du gouvernement, l'emballer au fond d'un panier et le vendre à la halle, à moins qu'on aimerait mieux le mettre au mont-de-piété. »
Ils trinquèrent encore une fois, puis Échalot reprit
« Ah, voici donc qui est bon, Madame Léocadie. Je suis au bloc à la place de notre lieutenant. Quand est-ce que j'aurai de vos nouvelles ?»
Maman Léo ne répondit pas tout de suite. Peu à peu, un nuage sombre descendit sur son front. « Un garçon, dit-elle, c'est peut-être bien la dernière fois que je rirai. Je ne peux pas te répondre au juste, vois-tu, parce qu'il y a un fossé à sauter qui est bien profond et bien large. On pourrait rester dedans. Mais moi, commença Échalot d'un ton de révolte, je serai à l'abri. »
« La paix, l'enflé, dit la veuve qui se redressa, le bon Dieu est bon, et c'est mon premier mot qui est le vrai, il n'y a pas de danger. »
Seulement, ajouta-t-elle en se levant, « prends cet argent-là. » Elle lui mit entre les mains tout le paquet de billets de banque. « Demain de grand matin, continua-t-elle, tu porteras cela chez la personne qui garde ton petit Saladin. » Ou bien, si tu n'as pas confiance entière dans cette personne, tu feras un trou quelque part et tu y cacheras le magot.
« Mais, voulut objecter le pauvre diable qui se prit à trembler, qu'y a-t-il donc, patronne ?»«
La paix, interrompit encore maman Léo, tu me rendras la chose quand je te la redemanderai. Mais écoute bien, bonhomme, si je ne te la redemande pas avant 8 jours d'ici, elle est à toi, je te fais mon héritier. » Elle ferma la bouche d'Échalot, qui voulait répondre, en ajoutant d'un ton brusque et impérieux,
« Tu as entendu ma dernière volonté, ma vieille, et j'espère que tu la respecteras. C'est mon testament. Maintenant, tu vas te coucher, à te revoir demain matin, et bonne nuit. »